Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Plus de 150 pays se sont réunis à Marrakech ce lundi pour approuver le pacte mondial sur les migrations qui vise à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière. C'est son but explicite. Alors quels sont les enjeux de ce pacte? Bonjour Yves Pasquaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'European Migration Law. Et tout d'abord, une question, en quoi consiste ce pacte véritablement, puisqu'il y a eu de nombreux discours, certains accusés d'être des infox au sujet du pacte de Marrakech. Pouvez-vous nous dire précisément ce qu'il stipule?
Alors précisément, ça va être compliqué parce que, comme tout le monde l'a dit, c'est un document de 41 pages qui fixe des objectifs, en fait. D'une part, il faut rappeler que ce document-là n'est pas contraignant, et c'est ce que rappelle d'ailleurs le préambule du texte. Il n'a aucun objectif et aucun effet de contraindre les États, et bien au contraire, il respecte la souveraineté des États. Ensuite, prenant en considération la situation du phénomène migratoire dans la mondialisation et potentiellement ses effets positifs lorsque les migrations sont bien gérées, eh bien, le texte contient en fait 23 objectifs qui sont chacun accompagnés d'un engagement et chacun accompagné de mesures et d'actions à mettre en œuvre. En fait, ce sont 23 objectifs et pas moins de 187 mesures et actions à mettre en œuvre.
Et vous n'allez pas effectivement pouvoir égrener ces 187 mesures, mais tout d'abord, un point important, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce pacte est considéré comme étant un pacte non contraignant juridiquement, ce qui veut dire qu'il ne s'impose pas aux souverainetés nationales. Est-ce véritablement le cas?
C'est le cas parce que il y a deux éléments qui permettent de l'expliquer. D'une part, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, notamment au point 7. Du préambule. Et d'autre part, si ça avait été un pacte juridiquement contraignant, la défection d'un seul aurait suffi à ne pas l'adopter. Or, si l'on a vu que plusieurs États, notamment les États-Unis, l'Australie, Israël et des États européens, se sont désengagés de ce pacte, les négociations ont continué et il a été signé, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un texte juridiquement contraignant en tant que tel, mais simplement d'un ensemble d'engagements que les États de la communauté internationale vont tâcher de mettre en œuvre.
Mais alors, s'il est non contraignant, pourquoi en faire un de pacte? Pourquoi, après tout, si les membres ne sont pas liés de manière obligatoire, pourquoi faut-il nécessairement un texte? Yves Pasquaud, je rappelle que vous êtes directeur de l'European Migration Law.
C'est-à-dire que ce texte-là permet de reconnaître la nécessité de parler des questions migratoires au niveau de la communauté internationale. Et une fois qu'on a reconnu que l'immigration doit aujourd'hui être discutée au niveau de la communauté internationale, ce texte fixe un cadre. Et en fait, comme le dit le pacte, c'est un cadre à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il prend en considération à la fois les questions de développement dans les pays d'origine, les questions d'accès au territoire des États, de gestion des contrôles aux frontières intérieures, d'immigration légale, d'immigration irrégulière, d'intégration. C'est donc un ensemble d'éléments qui relèvent des migrations et un cadre dans lequel désormais la communauté internationale va pouvoir commencer à discuter à la fois de manière bilatérale mais aussi multilatérale.
Et l'idée selon laquelle ce pacte aujourd'hui est non contraignant, mais pourrait le devenir. Parce que finalement, ceux qui sont contre ce pacte, Yves Pasquaud, considèrent qu'aujourd'hui, il se présente comme étant une sorte de déclaration de principe à laquelle on peut ou non adhérer. Mais demain, son sens pourrait largement changer. Et dans ces conditions, eh bien, ce qui se présente comme étant une déclaration de principe pourrait devenir quelque chose d'impératif pour ces 150 nations qui en sont signataires.
Alors, pour que le pacte en tant que tel devienne impératif, il faudrait que la totalité des États membres, des États de la communauté internationale, à l'unanimité, le signe, ce qui n'est pas le cas. En revanche, ce qu'on peut considérer, c'est que des éléments du pacte puissent à l'avenir devenir impératifs, soit dans des États pris isolément, soit dans le cadre d'accords internationaux. Par exemple, le pacte fixe comme objectif de criminaliser la traite des migrants. Eh bien, certains États n'ont pas dans leur droit des règles qui criminalisent la traite des migrants. On pourrait imaginer que la mise en œuvre de cet objectif devienne du droit dans un État. De la même manière, le pacte prévoit que les États puissent conclure ce qu'on appelle des accords de réadmission pour permettre l'éloignement des personnes en situation irrégulière. Mmh. Eh bien là, on pourrait aussi avoir la matérialisation dans un accord entre un entre deux, plusieurs États, d'un accord de réadmission en vue d'éloigner les personnes. Donc, en fait, ce cadre-là est un cadre dans lequel les discussions vont pouvoir se développer et aboutir, pour certaines, à des actes, à des traductions juridiques.
Alors, ce pacte interdit notamment les détentions arbitraires. Alors, donc, du point de vue, bien entendu, des droits de l'homme, il n'y a pas de souci par rapport à cela. En revanche, lorsque l'on considère qu'une détention arbitraire est quelque chose de difficile à définir, là aussi, parmi les détracteurs du pacte, on considère que le simple fait de vouloir réguler un flux migratoire pourrait être considéré comme étant une détention arbitraire.
La détention arbitraire, c'est le fait de priver une personne de sa liberté sans base légale. Ça, c'est arbitraire. Or, ce que prévoit le pacte, c'est que le pacte n'interdit pas la rétention ou la détention des personnes en situation irrégulière. Il prévoit simplement que les États peuvent détenir des personnes en situation irrégulière, mais que la détention doit être proportionnée. Et si on peut avoir des mesures alternatives qui évitent la privation de liberté, alors il est préférable d'aller dans cette direction.
Et préférable d'aller dans cette direction quand, par exemple, en Hongrie, on est très hostile à ce pacte, en Autriche également, et la République tchèque, elle menace de faire défection. Est-ce que véritablement, c'est possible de conclure un tel pacte avec des pays qui, finalement, sont si différents les uns des autres à l'égard de la question de l'immigration, Yves Pasquaud?
Vous savez, pour ces États-là, il suffit simplement de rappeler une chose relativement simple. Ces pays d'Europe centrale et orientale ont manifesté toute la réticence qu'ils ont vis-à-vis du pacte. Mais ils ont oublié de dire aussi qu'en étant membres de l'Union européenne, ils sont tenus par des règlements et des directives européennes. Et pour vous donner un exemple tout à fait précis, il existe aujourd'hui au niveau de l'Union européenne une directive sur le retour des personnes en situation irrégulière qui a été adoptée en 2008 et qui est appliquée par tous les États membres de l'Union européenne. Et cette directive pose le principe que la détention ou la rétention des personnes ne doit être qu'une mesure de dernier ressort. Donc que la Hongrie, la République tchèque ou d'autres États européens critiquent le pacte, c'est oublier aussi qu'ils sont eux-mêmes liés par des règles qui, elles, sont juridiquement contraignantes et les empêchent de détenir les personnes en dehors de tout cadre juridique et en tout état de cause en violation du droit de l'Union européenne.
Et oui, parce que il y a aussi un droit, évidemment, de l'Union européenne. Du coup, est-ce que aujourd'hui, on peut imaginer une évolution de ce pacte, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important, Yves Pasquaud. Aujourd'hui, il y a la question des migrants, liée donc aux conséquences, notamment de la guerre en Syrie. Est-ce que c'est un pacte qui peut s'adapter à d'autres conditions géopolitiques ?
Oui, précisément, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le pacte, et comme c'est inscrit dans le texte, a une vision à 360 degrés du phénomène migratoire. Et si la question des conflits est traitée, notamment aussi dans le pacte pour les réfugiés, il y a aussi un ensemble de paragraphes qui sont consacrés notamment au déplacement climatique. Donc on voit bien que là aussi, la discussion qui a pris place entre les États de la communauté internationale, mais aussi avec des contributions de la société civile et d'organisations non gouvernementales, ont aussi inclus la dimension qui pourrait résulter de déplacements forcés qui résulteraient, eux, de changements climatiques ou d'effets des changements climatiques.
Yves Pasquaud, dernière question, mais pas la moindre. Le point 8 du préambule de ce pacte de Marrakech, et il a divisé les pays puisqu'il indique qu'il faut reconnaître que l'immigration est un facteur de prospérité. Évidemment, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Autriche ne sont pas du tout d'accord avec ce point 8 du préambule. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi fallait-il qu'il y ait un tel préambule ?
Il fallait qu'il y ait un tel préambule pour reconnaître d'une part que lorsque les migrations sont sûres, ordonnées et régulières, elles peuvent avoir des effets bénéfiques, notamment à l'heure de la mondialisation. Mais il faut ajouter aussi que les deux phrases qui suivent cette reconnaissance de l'effet positif des migrations lorsqu'il y a une meilleure gouvernance disent « Aujourd'hui, la majorité des migrants voyagent, vivent et travaillent dans des conditions surordonnées et régulières. Néanmoins, les migrations ont indéniablement des répercussions très différentes et parfois imprévisibles sur nos pays ainsi que sur les communautés et les migrants et leurs familles. Ce qui veut dire que le pacte reconnaît aussi que si la migration dans le cadre de la mondialisation, lorsqu'elle est bien gouvernée, a des effets positifs, elle a aussi un impact sur les communautés et les sociétés d'accueil qu'il faut prendre en considération.
Et qu'on doit tout prendre en compte. Merci beaucoup Yves Passepot.